Michel Pierre, bienvenue chez Mola pour parler de votre dernier livre, une monumentale histoire de l'Algérie, publiée chez Talendier. Alors, une histoire de l'Algérie des origines à nos jours. On a l'habitude, évidemment, de parler d'Algérie, mais on a plutôt l'habitude d'en parler sur des périodes précises ou sous des angles précis. Période précise, par exemple, la guerre d'Algérie ou, par exemple, l'Algérie contemporaine ou bien des thèmes comme, par exemple, les relations franco-algériennes, des choses comme ça. C'est dire d'ailleurs à quel point donc l'Algérie est ce pays si proche de la France pour des raisons historiques. Votre histoire de l'Algérie et va permettre d'élargir de beaucoup ce spectre-là pour montrer l'histoire, pour décrire, montrer l'histoire de ce pays à travers les âges, depuis la plus haute antiquité et même depuis la préhistoire. Hein. On se doute que l'Algérie a connu elle aussi la préhistoire, mais ce n'est pas souvent, en tout cas, mentionné, en tout cas en France. Voilà, c'est l'occasion d'élargir notre spectre. Alors, vous êtes Michel Pierre, vous êtes historien, vous avez cette particularité d'avoir été également diplomate et de bien connaître l'Algérie, donc le territoire dont vous parlez, puisque vous y avez passé une bonne huitaine d'années à deux reprises. Une fois, c'était en tant qu'attaché culturel. Alors entre 1988 et 1992, dans une période très intense, puisque 88, ce sont des grandes émeutes en Algérie contre le pouvoir. Hein, donc le printemps kabyle, et puis l'émergence du Front islamique du Salut et le début de la décennie noire de l'Algérie. Donc une période cruciale. Et puis vous allez revenir en Algérie. Ce sera donc en 2001. Donc à la fin de cette décennie noire, lorsque Abdelaziz Bouteflika prend les commandes de l'Algérie, et là vous y resterez encore une 4 ans. Donc le temps de vous imprégner profondément de l'histoire et de ce pays, de ses habitants. Alors peut-être un mot d'abord, Michel Pierre, sur vos séjours algériens et sur ce lien qui vous rattache à l'Algérie.
Oui, là, j'ai voulu faire vraiment une histoire longue de l'Algérie pour tenter de mieux comprendre une histoire d'aujourd'hui. Et pour me rendre compte aussi que j'ai moi-même une histoire longue avec l'Algérie qui a commencé quand j'étais étudiant, en 1971, où j'ai parcouru pendant plusieurs semaines l'Algérie qui était encore celle de Boumédienne, en autostop, et où j'ai vraiment... j'avais pris un bateau qui m'a débarqué à Orange, on est repris un autre qui m'a ramené de Tunis à Marseille. Entre les deux, j'ai baguenaudé pendant quelques semaines. Ça m'a donné, une sorte de goût, presque de fascination pour la beauté du pays, pour les contacts humains, pour tout ce que j'ai pu rencontrer. Et quand la proposition m'a été faite par les hasards de la vie en 1988, comme vous dites, de revenir comme attaché culturel à l'ambassade de France à Alger, je suis arrivé en ayant une petite connaissance intime du pays. Et pendant ces 4 ans effectivement cruciaux pour l'histoire contemporaine de l'Algérie, donc entre les émeutes d'octobre et 92, c'est l'assassinat du président Boudiaf, j'ai vu et analysé aussi en tant qu'historien pour l'ambassade ce moment important, et comme vous le dites, je suis revenu 10 ans après. Mais en fait, j'ai eu à croiser entre ces différents séjours, puis entre-temps j'en ai fait d'autres, y compris si je pense à l'Algérie romaine, par exemple, j'avais une fascination aussi pour les lieux laissés par l'Empire, bien sûr, Tipaza, Djemila, Timgad, etc. Donc je me suis beaucoup intéressé à ces lieux romains, à cette Algérie romaine, mais aussi à l'Algérie médiévale, à l'Algérie de la Régence, et petit à petit, à la fois sur l'histoire contemporaine et sur ce qui me semblait important dans l'enracinement du pays, peu à peu s'est développée l'idée d'en faire une histoire et d'en faire un livre. Ce que j'ai aussi voulu, c'est d'essayer de voir comment l'Algérie d'aujourd'hui construit son roman national. Comme tout peuple, comme toute nation, comme tout pays, l'Algérie construit aujourd'hui un roman qui évacue certains pans de l'histoire, en valorise énormément d'autres, bien sûr la guerre de libération, mais à force d'occulter des pans entiers, il y a des choses qui sont faussées, mais il y a des choses qui évoluent. Vous parliez, par exemple, c'est vrai qu'à un moment, il y a eu le printemps kabyle ou des révoltes importantes. Mais aujourd'hui, par exemple, dans l'Algérie actuelle, le tamazight, la langue berbère, est devenue officielle. Alors, pas la langue de l'État, mais il y a une forme de bilinguisme intérieur entre l'arabe et le tamazight qui aurait été invraisemblable d'envisager sous Ben Bella ou sous Boumediene. Donc, c'est un pays qui évolue quand même.
Alors, il y a donc dans l'histoire de l'Algérie, sur 2000 ans, mais et au-delà, puisque vous parlez de votre premier chapitre concerne la préhistoire, il y a donc deux grandes périodes. Hein, donc, la période préhistorique, il y a l'influence évidemment de Carthage et de Rome, puisque l'Algérie est évidemment est une partie de cet empire romain qui entoure toute la Méditerranée.
Avec auparavant une influence punique non négligeable.
Alors avec une influence punique, donc l'influence de Carthage, donc l'Algérie, ou en tout cas ce qu'est l'Algérie à l'époque, va être concernée par ces batailles, ces guerres puniques avec Rome. Donc il y a évidemment Rome. Ensuite il y a une période d'une Algérie chrétienne. Tout le monde connaît évidemment le grand évêque d'Hippone, Saint Augustin, qui est un des grands docteurs de l'Église et qui était natif donc de l'Algérie. On verra d'ailleurs que ce personnage revient régulièrement. Ensuite, il y a évidemment la conquête musulmane, alors qui s'étale sur un temps relativement long et qui est assez chaotique. C'est intéressant d'ailleurs peut-être aussi, on va en dire un mot, la conquête musulmane. Donc au début du Moyen Âge. Et puis ensuite, il y a cette période que vous avez mentionné à l'instant, la Régence, à l'époque où l'Algérie est une, on peut pas dire une province, mais donc une excroissance de la sublime porte, c'est-à-dire de l'Empire ottoman, et où Alger va devenir va conquérir une forme de semi-indépendance et devenir une forme de république corsaire qui va causer beaucoup de qui va avoir une forte influence en Méditerranée, causer beaucoup d'ennuis donc aux pays chrétiens qui à leur tour sont en train de tenter de conquérir cet espace. Donc c'est un moment crucial de l'histoire de l'Algérie. Là on est au 16e siècle. Ensuite on aura évidemment la conquête française en 1830. On dira évidemment un mot sous Charles X, cette longue période qui s'ouvre donc avec avec Abdelkader, la résidence d'Abdelkader, avec la colonie, les difficultés de la colonisation française jusqu'au centenaire de la colonisation en 1930, où on croit que l'Algérie évidemment va être arrimée pour de bon à la France. En fait, il n'en sera rien. Il y aura ensuite la longue guerre d'indépendance et puis les 60 années qui viennent de s'écouler avec donc une Algérie, les heures et les malheurs d'une Algérie indépendante jusqu'à aujourd'hui. Alors je pensais en lisant ce livre pouvoir vous en parler au moment de la visite officielle du président algérien Tebboune, donc à Paris, visite maintes fois annoncée, bon, qui a à nouveau été reportée, donc qui devait se passer au mois de juin. Bon, il semble qu'elle soit reportée au mois de septembre. Oui, en tout cas, on peut de toute façon parler de l'Algérie à tout moment. Alors, Michel Pierre, j'ai énoncé peut-être les grandes têtes de chapitre. Prenons peut-être les choses dans l'ordre. Vous parlez du roman national algérien. Je me suis amusé en vous lisant de savoir que, par exemple, l'Algérie donc a exhumé son premier homme, l'homme de Tigrinif, et un ministre de la culture algérien récent. Une ministre de la culture algérienne récente avait déclaré que cet homme-là était le premier déporté de l'histoire. Alors, ça fait un petit peu sourire. Expliquez-nous.
Oui, ce sont des vestiges d'un australopithèque de plusieurs centaines de milliers d'années qui avait été découvert lors de la présence française en Algérie et qui, en ce moment, est en quelque sorte, fait partie des collections du Musée de l'Homme à Paris. Donc, il y a quelques années, j'étais à l'ambassade à cette époque, la ministre de la culture algérienne à Strasbourg, devant le Parlement européen, réclamait le retour du plus vieux déporté du monde. Effectivement, on m'a demandé quel était ce déporté. Donc, j'ai mené l'enquête, en quelque sorte, et pour m'apercevoir qu'il s'agissait d'un vestige vraiment très ancien. Mais au-delà...
Il y a une demande de restitution.
Ah oui, il y avait, il fait partie des quelques demandes demande de restitution. Mais normalement, les conditions de restitution qui ont pu jouer pour d'autres œuvres ne peuvent pas jouer, parce que ce sont des choses qui ont été réglées en 1962 par des accords et des clauses qu'on ne peut pas remettre en cause aujourd'hui et qui n'ont du reste strictement aucune importance. Ces mandibules et ces vestiges sont parfaitement documentés. Qu'on le rende ou qu'on le rende pas, n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui en a, c'est que l'Algérie, dans la construction de son discours, de son roman national, remonte effectivement jusqu'à la préhistoire, dont l'occupant français les a privés. Donc c'est toute la construction de ce récit qui m'a intéressé.
Puisque les archéologues français, bien sûr, pendant la période de la colonisation, oui, ont travaillé en Algérie.
Ah oui, bien sûr, et sont à la source. Alors c'est repris aujourd'hui, heureusement, par des scientifiques algériens qui font bien leur travail, mais les tout débuts. Et puis c'est la passion du 19e siècle pour la préhistoire telle qu'elle a existé en France est évidemment transportée dans les départements français d'Algérie, où on se passionne aussi pour savoir comment cette Afrique du Nord s'est peuplée, à partir de qui, est-ce qu'il y avait un passage entre le territoire européen, enfin j'ose pas dire la France de l'époque et l'Algérie du temps, est-ce qu'on passait à la Méditerranée, qui influence qui, est-ce que les peuples sont les mêmes, est-ce qu'ils sont très différents, est-ce que le progrès est nécessairement venu du Nord par rapport au Sud, ou est-ce qu'il a une identité du Sud. Donc la préhistoire n'est qu'une question quand même d'idéologie et de politique qu'on voit déjà à la fin du 19e pour justifier la présence française et qu'on voit aujourd'hui pour contrer cette présence française.
En tout cas, les Algériens peuvent être certains que le territoire qu'ils occupent aujourd'hui a été occupé de la plupart de la oui. Depuis très longtemps. Je peux en témoigner personnellement pour avoir été en 2018 dans le désert algérien, voir des peintures rupestres dans la région de Beni Abbès, des peintures d'ailleurs, des sculptures et des peintures qui étaient en plein air sur des amoncellements de rochers, et où l'on voit tout un bestiaire et quelques sculptures qui peuvent laisser penser à une présence humaine. Et en tout cas, évidemment, les artistes sont forcément donc des humains qui ont donc tracé tout ce bestiaire d'un Sahara qui se trouvait à l'époque certainement beaucoup plus verdoyant et peuplé qu'aujourd'hui.
Alors une période là on franchit quelques centaines de milliers d'années, parce que la période du pastoralisme au Sahara, nous sommes à 6-8 000 ans par rapport
pour la période du néolithique.
Nous sommes au néolithique, avec des débuts en plus de domestication de chasseurs-cueilleurs, mais domestication de bovidés, de l'élevage et sans doute un début d'agriculture. Là, nous sommes dans une période, je dirais, beaucoup plus récente, qui se termine presque à l'échelle historique, ou disons 2000 au deuxième millénaire avant notre ère, mais qui fait partie, elle aussi, de l'histoire de l'Algérie, qui revendique aussi et qui demande, par exemple, puisque vous parliez d'art pariétal et de peinture, qui demande les originaux ramenés par Henri Lott, qui avait fait les relevés, en particulier dans le Tassili-Nadjer, de toutes ces peintures néolithiques, comme vous dites, à différentes périodes. Et tous ces relevés peints, qui sont aujourd'hui aussi au Musée de l'Homme, sont réclamés par les autorités algériennes, qui se reconstruit ce passé.
Alors on a parlé, on va avancer un peu dans le temps. On a parlé des guerres puniques. Donc tout le monde connaît Hannibal, l'affaire des éléphants. Donc la grande rivalité avec la Rome naissante. Ça va se terminer évidemment à l'avantage de Rome, mais il y a quand même toute une période, celle dont Flaubert parle dans Salammbô. Hein, donc toute cette période très très incroyablement romanesque et cruelle de ces guerres puniques. Alors l'Algérie se trouve. Alors la capitale des Puniques, c'est Carthage, c'est donc Tunis. Mais quelle est à l'époque donc de ces guerres puniques, le statut, je dirais, de ce littoral algérien là, est-ce qu'on est dans une sorte de no man's land, est-ce que c'est une dépendance, voilà, une dépendance des Carthaginois, est-ce que c'est voilà que, comment situer à l'époque l'Algérie d'aujourd'hui?
Oui, pour être le plus simple possible, une partie des royaumes qui existent dans l'Algérie d'aujourd'hui sont plus ou moins influencés par Carthage qui lutte contre Rome, et d'autres vont plutôt basculer du côté carthaginois, du côté romain, pardon. Et donc Rome va peu à peu instituer son autorité sur ce que est l'Algérie d'aujourd'hui, mais avec des révoltes comme Jugurtha, par exemple. Et la fameuse guerre de Jugurtha, Jugurtha va s'opposer. Alors,
Jugurtha, c'est un nom qui nous parle quand même.
Bah, voilà, alors Jugurtha, nous ne serait-ce que par César, la guerre de Jugurtha,
et c'était aussi le nom du chien de Valéry Giscard d'Estaing.
Alors, ça, c'est
passons.
Alors, non, c'est pas inintéressant. Effectivement, je le mentionne dans le. Alors, Jugurtha est considéré par les Algériens, et là, on est toujours dans le roman national, mais pas que, comme le premier héros d'une indépendance algérienne qui lutte contre Rome et qui. Ce qui nous rapproche de l'histoire française va finir ses jours à la prison Mamertine à Rome, comme Vercingétorix quelques décennies après. Donc nous sommes, on pourrait envisager une cérémonie commune franco-algérienne à la prison Mamertine de Rome pour avoir vu mourir et Vercingétorix et Jugurtha.
Voilà qui pourrait nous rapprocher encore un peu.
Absolument.
Plus.
Donc je suggère
de jumeler Vercingétorix et Jugurtha.
Et nous ferions une cérémonie commune dans la prison à Rome, en bas du Capitole, serait de la gueule. Mais ce qui est amusant, et je reviens sur Jugurtha parce que les anecdotes sont parfois importantes. Jugurtha est aussi le premier prénom que, par exemple, Aït Ahmed, l'un des historiques de la Révolution et de l'insurrection de 1954, va donner à son fils. Et Jugurtha, par je ne sais quel hasard, a été aussi le nom du chien de Valéry Giscard d'Estaing.
Ce qui n'a pas dû être très bien vu en Algérie.
Exactement. Alors j'ai retrouvé des textes où, effectivement, les Algériens qui ont, comme souvent dans le monde arabe, un rapport, je dirais, assez complexe avec les chiens, qui ne fait pas partie des animaux.
Les aiment pas.
Oui, hein, comme il est dit dans un hadith du prophète, je crois, les anges ne viennent pas dans une maison où il y a un chien ou une image. Donc ça évacue déjà de choses. Donc que le président de la République française, alors qu'il s'agissait bien sûr de toute autre chose, ait nommé ou baptisé l'un de ses chiens Jugurtha, a été pris pour une partie des Algériens qui sont quand même un peuple, comme d'autres du reste, relativement susceptibles, comme quelque chose qui se faisait pas. Oui, donc, pas. À travers le simple nom de Jugurtha, on peut déjà raconter.
Et d'ailleurs, je crois qu'on s'est chargé de le rappeler à Valéry Giscard d'Estaing lorsqu'il était venu en visite officielle à Alger du temps du vivant de Boumédienne en 75.
Ah non, ce serait pas permis. Non, ce serait pas permis.
Discrètement.
non, on savait en plus que Giscard d'Estaing, à cette époque, pas à cette époque, mais des années auparavant, avait été plutôt Algérie française. Mais on l'a bien accueilli. Et ça m'amène à une autre réflexion qui a été importante pour moi aussi dans le livre, c'est que quand Boumédienne reçoit le président Giscard d'Estaing en visite officielle, on doit être en 1975, et Boumédienne dit textuellement, la page est tournée, on en commence une autre. Or, on s'aperçoit que 50 ans après, la page n'est pas du tout tournée. Non. Et ce qui m'a, du reste, amené à m'interroger sur... Mais depuis quand l'Algérie, historiquement, demande, par exemple, à la France de se repentir ? Depuis quand existe le phénomène de repentance ? Et je me suis aperçu qu'il est relativement récent. Il n'existe pas sous Ben Bella, il n'est pas sous Boumédienne. Il commence un peu sous Chadli, mais c'est surtout... avec l'évolution du pouvoir de Bouteflika, que la demande apparaît. Pour des raisons assez simples, c'est-à-dire qu'au moment de son indépendance, l'Algérie, et d'abord le général de Gaulle, veut que l'Algérie est partisan de son développement. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une ancienne colonie française aussi importante que l'Algérie dans une situation de paupérisation, une situation de déshérence économique trop importante, ne serait-ce que pour des phénomènes migratoires qui pourraient en résulter, ne serait-ce qu'aussi que le besoin que de Gaulle a des bases du Sahara pour en terminer avec les essais nucléaires et en terminer avec les essais balistiques, avant le Pacifique et la Guyane, pour les fusées. Donc il s'agit que l'Algérie démarre d'un bon pied son indépendance. Et donc il y a prendre qu'un exemple, ce qu'on a appelé le plan de Constantine va continuer, les aides françaises vont être très importantes pendant ces premières années de l'indépendance. Donc évidemment, ni Ben Bella ni Boumediene va demander à ce moment-là à la France de se repentir, puisque on n'est pas du tout dans cet esprit. Et de plus, qu'on oublie parfois, et en particulier sous Boumediene, l'idée existe, y compris assez répandue partout, que avec les richesses dans l'hydrocarbure, avec le développement économique, avec le concept d'industrie industrialisante, avec la révolution agraire, etc., l'Algérie va se développer, et on trouve des textes, va atteindre le niveau de vie ou le PIB de la France en 40 ans. Donc quand vous êtes dans une forme de pas d'égalité, mais de
les choses sont plus faciles.
Les choses sont beaucoup plus faciles. Quand vous arrivez, alors je vais réutiliser des termes économiques, en détérioration des termes de l'échange, que l'Algérie n'a pas réussi ce décollage économique et que la France continue son chemin, poursuit son sillage, le décalage entre des peuples si près ou des gouvernements si proches à un moment fait que...
Ça crée des tensions
et la revendication devient différente. La page n'est, comme disait Boumediene, la page n'est pas tournée.
Alors je reviens à mon Jugurtha. On est à l'époque des guerres puniques et donc à l'époque romaine. Est-ce que c'est une époque qui, donc, vous avez parlé de Jugurtha qui est un personnage revendiqué par le nationalisme algérien. Est-ce que c'est une période que les Algériens connaissent bien et dont ils sont fiers, ou est-ce qu'ils se sentent ne pas exister à l'époque ou exister sous forme d'une simple présence est-ce que Rome en clair est considérée comme une autre présence coloniale?
Oui, pour le discours sur Jugurtha, oui, c'est celui qui se révolte contre Rome, alors que par exemple Juba II, qui va régner à Cherchel, est un prince romain de très grande culture et beaucoup moins valorisé. Mais ce qui est intéressant quand on regarde aussi la période romaine, ce qui m'a toujours frappé, c'est que peu ou prou, les frontières de l'Algérie existent plus ou moins déjà. La frontière, par exemple, entre ce qu'on appelle la Mauritanie césarienne, c'est-à-dire
la Mauritanie.
La Mauritanie césarienne, donc autour de Cherchel, donc dans l'Algérie d'aujourd'hui, et la Mauritanie tingitane, c'est-à-dire autour de Tanger, est tout à fait autre chose. Donc la frontière entre les deux est déjà plus ou moins autour de la rivière Moulouya, qui est encore plus ou moins la frontière aujourd'hui entre l'Algérie et le Maroc. Et de même que l'Afrique proconsulaire, telle qu'on l'appelait ainsi à l'époque romaine, c'est la Tunisie d'aujourd'hui. Donc, dans les grandes lignes,
donc l'Algérie, c'est cet espace
entre
la région proconsulaire de Tunis et puis
l'autre Mauritanie
et le futur Maroc.
Et on va retrouver ces frontières, par exemple, au moment de, puisque vous l'évoquez, de la régence
de la régence,
c'est-à-dire de cette présence. Alors, vous aviez raison à propos, c'est une république plus ou moins indépendante. Qui s'étale sur une période importante, puisqu'on peut considérer que ça commence avec les frères Barberousse, ces corsaires qui sont devenus mythiques.
Voilà, Barberousse est aussi un nom qui nous dit quelque chose.
Hein. Oui, c'est ça. Ah. Bah, ne serait-ce que
on a qui est la figure tutélaire de cette république corsaire
qui commence avec lui, quoi. Vrai.
Commence avec lui, c'est ça.
Mais on est quand même sur une période longue, puisque Barberousse c'est disons 1516 et
là on a fait Michel-Pierre, on a fait un grand saut par-dessus. Peut-être avant d'évoquer la régence, si ça ne vous ennuie pas, disons un mot quand même après Rome, donc après la grande époque romaine. Bon, il y a bien sûr donc la conquête musulmane qui va intervenir. Bon, c'est quand même fondamental, puisque à ce moment-là les conquérants arabes donc vont dans ce pays donc imposer une nouvelle religion et puis une nouvelle façon d'être, une nouvelle culture. Alors avec plus ou moins de difficultés, avec plus ou moins de collaboration de la part des populations locales, mais enfin ça va se faire. Au fond, il y a toujours eu en Algérie, dans l'Algérie d'aujourd'hui, des vagues de conquêtes. Enfin, donc on a eu Carthage, on a eu Rome, on a maintenant les tribus arabes, on aura plus tard le sultan ottoman, puis on aura les Français, etc. Donc, alors est-ce que la conquête arabe a un statut particulier? Est-ce que arrive une nouvelle religion, une nouvelle langue? C'est quand même fondamental dans la constitution de l'Algérie.
Oui, mais c'est relativement lent. la conquête musulmane du 7e et 8e siècle, qui va être relativement brutale, qui va assez vite arriver jusqu'à Gibraltar, puisque ce sera ensuite le passage vers l'Espagne, jamais obligé. Gibraltar, c'est Djebel El Tariq, donc c'est son origine arabo-berbère est dès lors présente. Mais parce que ça, c'est aussi quelque chose auquel je me suis beaucoup intéressé en posant des questions qui étaient déjà posées du reste dès la fin du 19e et au 20e siècle, puisque vous évoquiez Saint-Augustin. L'Algérie ou l'Afrique du Nord a été non seulement romaine, mais profondément chrétienne, avec des centaines d'évêques.
Vous mentionnez à un moment donné qu'il y a 400 évêques sur la côte. Sur une région qui n'est pas la région de l'intérieur, hein, c'est vraiment.
Ah oui, c'est
la plaine de la Mitidja, et puis c'est les Aurès, enfin c'est la première
oui, barrière. Un peu les Aurès, mais essentiellement effectivement la zone côtière. Et quand il y a des grands conciles à Carthage, ce sont des centaines d'évêques qui sont.
La ville de Saint-Augustin, Hippone, c'est entre Alger.
Non, c'est sur la côte, c'est à Naba.
C'est Annaba, c'est près de Bonanaba.
Bonanaba. Et on a vraiment une présence chrétienne extrêmement importante. Donc l'historien s'interroge toujours, comment se fait-il que ce christianisme avait totalement disparu, disons, au XIe et XIIe siècle, alors que dans d'autres régions du bassin méditerranéen, également touchées par la conquête musulmane, les chrétiens d'Orient existent, les coptes encore, bon, avec les difficultés qu'on connaît, mais ça ne s'est jamais arrêté. Comment se fait-il que dans toute l'Afrique du Nord en général et en Algérie en particulier, cette présence chrétienne est totalement disparue?
Et quelle est l'explication alors?
Alors, il y a plusieurs explications. D'une part, il faut bien voir que ce qu'on appelle la conquête arabe ou musulmane venant d'Égypte, c'est par plus ou moins par vagues successives. Donc, il y a incontestablement une vague violente, faite de conquêtes, de massacres, d'incendies. J'allais dire, on est dans un schéma classique. Mais en même temps, finalement, l'arrivée de cette religion qui est monothéiste, qui change pas énormément de choses dans les populations locales, qui est même, pour ce qui est des impôts, moins lourdes que certains impôts du temps de la présence chrétienne, et en particulier de la reconquête, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qu'on a appelé la reconquête byzantine. Finalement, par rapport, dans certaines régions, toujours côtières, hein, la suggestion de ces nouveaux arrivants semble finalement moins lourde que celle des Byzantins finissants. Donc, quitte à soit rester chrétien dans un temps et à payer l'impôt prévu, quitte à se convertir, ce qui est quand même pas extraordinairement ni compliqué, ni difficile, ni traumatisant par rapport aux précédentes croyances, dans la mesure où on l'oublie souvent, ou reste, qui était aussi préexistant à la religion chrétienne et plus ou moins absorbé par elle, les rites agraires, le saint local. C'est pas l'islam qui va changer le fait qu'on va rendre hommage ou faire un petit pèlerinage au saint local. Le christianisme avait absorbé ces vieilles traditions et l'islam va en faire autant. Donc finalement, les populations vont se glisser sans grand problème dans cette nouvelle religion. L'économie va changer aussi, donc les relations, tout le système économique qui était celui de l'Empire romain, les liens avec Rome, etc., vont disparaître. Donc on rentre dans de nouveaux rapports économiques qui font justement que ne serait-ce que le lien intellectuel avec Rome va disparaître aussi. C'est-à-dire on ne parle plus latin. Pourquoi ? Alors on pouvait évidemment, on écrivait ou on parlait encore latin du temps de Saint-Augustin, qui, du reste, se plaignait du fait que dans les masses paysannes, on parlait punique encore. Donc, là où vous avez eu un rapport entre le punique et l'arabe qui mérite d'être étudié aussi, qui sont toutes les deux des langues sémitiques, et finalement, le greffon va prendre et peu à peu.
Enfin, il y avait aussi le rameau berbère, donc la langue, oui. Les langues berbères.
Oui, mais les berbères étaient chrétiens aussi.
Voilà. Donc enfin, c'est quand même un changement. C'est quand même un changement profond, puisque l'arabe va quand même se répandre, lui aussi.
Oui, il va se répandre, mais le berbère va se maintenir très très longtemps. Et c'est assez progressif. Alors, il y a cette première conquête, et puis à l'arrivée plus tard, là on est quelques siècles après, avec l'arrivée des Beni Hilal, qui sont des nomades arabo-musulmans, dont se débarrasse le califat égyptien et qui va submerger l'Afrique du Nord. Et là, ce sera une deuxième conquête, en quelque sorte, plus virulente, plus brutale. Alors, elle va faire plus ou moins disparaître toute trace du christianisme. Et puis après, vous aurez les grands empires berbères. Jusqu'à présent, l'influence était venue de l'Est avec l'Égypte. Et là, elle va venir avec les Almohades et les Almoravides, qui sont d'origine berbère, plutôt de l'Ouest.
Alors, on aurait pu imaginer, un grand, avec ces influences de l'Ouest, un grand empire almoravide, almohade, et donc ensuite une expansion du royaume du Maroc sur toute cette région algérienne. Mais en fait, non, c'est pas ça qui va se passer.
Ça existait un moment.
Puisque la région d'Alger, donc toute cette côte, va, au fond, quand même une forme d'identité. Qui va se maintenir au fil des siècles et résister à la fois aux influences venues de l'Est ou de l'Ouest pour gagner une forme d'autonomie historique qu'on va voir au moment de la Régence dans son rapport assez souple avec la nouvelle puissance qui est la puissance ottomane là pour le coup.
Oui, l'arrivée à voir d'abord de Barberousse, dont on parlait précédemment, et de ses corsaires d'origine ottomane, dit barbaresque, mais avec toute l'ambiguïté. La mère de Barberousse était chrétienne, par exemple. Ils sont originaires d'une famille de Mytilène qui vont s'installer.
Mytilène, donc sur la côte ionienne, une île grecque aujourd'hui, oui.
Et qui vont commencer leur carrière de marins corsaires du côté de Djerba, vont être appelés au secours par Béjaïa, puis ensuite par Alger, pour lutter contre les Espagnols, parce que tout ça se joue, c'est des fronts actifs pendant des siècles, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment, bien sûr, où le mouvement est parti du sud vers le nord, avec l'Andalousie, etc., puis après, ça a été du nord vers le sud, avec des volontés espagnoles de prendre, et un peu portugaise pour ce qui est du Maroc, mais en tout cas espagnol pour l'Amérique du Nord, de Charles Quint par exemple, sur Tunis, Alger, etc. Donc une lutte au rang, merci le Kébir, au rang a été une ville espagnole quasiment jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, puisque.
Alors peut-être on peut dire quand même s'arrêter un tout petit peu sur cette fameuse régence d'Alger, à laquelle la conquête française va mettre fin en fait, hein. Mais déjà vers 1810-1820. Cette régence est en train de s'étioler, oui. Donc je dirais qu'elle va tomber comme un fruit mûr en 1830 lorsque Charles X, le roi de France, va lancer une offensive maritime pour s'emparer de la ville d'Alger. Mais pendant la grande période, c'est-à-dire au 16e-17e siècle, c'est vraiment une puissance considérable. Vous avez un chapitre dans ce livre où vous décrivez la puissance maritime que représente. D'ailleurs, on se demande aujourd'hui qu'est devenue la puissance maritime algérienne parce qu'à l'époque, ce sont des centaines de bateaux. Ce sont des populations de marins et de guerriers sur l'eau. Ce sont des raids sur toutes les îles de la Méditerranée, jusque sur la côte française, espagnole, italienne,
jusqu'en Islande.
Jusqu'en un
raid en Islande.
Et même jusqu'en Islande, c'est les Vikings de la Méditerranée. Ces populations d'Alger. Enfin, c'est vraiment incroyablement puissant.
Oui, c'est une république. Corsaire au sens où on l'entend parfois par la littérature, le cinéma, ou j'allais dire Angélique, marquise des anges. Donc c'est tout notre imaginaire aussi orientaliste qui parle de ces pirates barbaresques. Disons que la guerre de course, pour ce qui va faire la fortune d'Alger, effectivement, c'est 1520 jusqu'à 1640. Ça dure un siècle, 120-130 ans. Avec une véritable puissance, vous avez raison, mais qui est aussi basé sur un phénomène qui m'a assez passionné, qui avait été du reste bien étudié en son temps, qui est aussi basé sur ce qu'on a appelé sur les convertis, c'est-à-dire des chrétiens fait prisonnier sur des navires chrétiens par ces corsaires barbaresques et qui finalement vont se convertir à l'islam. C'est une sorte de méritocratie au sens strict du terme. C'est-à-dire, si on est bon marin, bon navigateur, si on a le sens de la navigation, finalement, on est fait prisonnier, mais on ne va pas vous exécuter. Votre force, elle vient aussi de votre intelligence, voire alors, la force brute de travail quand on devient forçat à Alger, mais aussi... ils se convertissent et ils rentrent dans la marine algérienne.
Parce que vous qui êtes un spécialiste des bagnes, Michel Pierre, vous avez beaucoup travaillé sur la question des bagnes, Alger, à un moment donné, c'est un grand bagne, c'est-à-dire que c'est barbaresque, donc qui écume la Méditerranée, donc capturent des bateaux, donc pour capturer des richesses, mais aussi, donc comme vous venez de le dire, capturer des hommes pour les faire travailler, pour s'arroger leur talent, leur richesse. Alors certains vont évidemment meurent au bagne, mais en fait la plupart d'entre eux donc vont servir à augmenter la puissance de ces
ou sont rachetés. Ce que l'Europe chrétienne fait tout autant.
On rançonne à qui mieux, on garde, on convertit, mais également on rend des prisonniers contre de fortes sommes d'argent. Donc il y a quand même tout un système de négoce légal, illégal et de mise en captivité et de rançonnage qui est un modèle très impressionnant.
Oui, à un moment, on calcule qu'au début du XVIIe siècle, 40% des raïs, des capitaines de ces navires corsaires d'Alger, ce sont d'anciens chrétiens convertis. Donc, qui viennent de partout, hein, y compris originaires de la mer Baltique, de Bretagne, alors plutôt des côtes italiennes, bien sûr, puisque c'est là que les razzias ont ramené plus de monde, et ramenant plus
la
de monde,
Sicile,
on
a plus Malte, de convertis. Crète.
Tout connaisseur d'Alger connaît, par exemple, une petite mosquée qui est dans la basse Kalba d'Alger, qui s'appelle Ali Bichin, mais Bichin, c'est Piccino. Ou Piccinino, donc c'est un prisonnier d'origine, bien sûr, comme son nom le petit, d'origine italienne, qui devient raïs, qui devient capitaine de navire. Et il faut bien comprendre que pour ces marins de talent, dans la marine royale de Louis XIV ou de Louis XV, ils n'avaient aucune chance d'accéder à des grades d'officier et a fortiori de devenir capitaine, puisqu'ils n'étaient pas aristocrates, ils n'étaient pas nobles. À Alger, tout ça n'a aucune importance. Si on a vraiment du talent, on peut accéder, pour peu de ce... On doit être converti, mais c'est assez facile... finalement, de le faire. Et à ce moment-là...
Donc vous voulez dire qu'il y a des marins occidentaux qui vont faire carrière à Alger ?
Ah, dans des proportions considérables.
Ouais. Donc ils jouent un peu contre leur camp, quand même, ceux-là. Hein.
Est-ce que à l'époque, la foi ou la nationalité était finalement si importante ? C'est le mercato.
Ah, vous prenez voilà. Cette comparaison. Oui.
J'oserais presque dire qu'après tout, plutôt que de rester matelot et de trimer sur un vaisseau de Louis XIV et avoir la possibilité de devoir un capitaine d'un magnifique bateau, d'avoir une villa à Alger et toutes les conditions des douceurs de la vie, le choix est vite fait. Et alors, il y a ceux qui tiennent profondément et à leur nation et à leur religion. Mais on est quand même là aussi dans énormément d'éléments d'intratissage. On est dans le monde méditerranéen, donc même adversaire, on se côtoie, on fait le même métier. Alors en temps de paix, on se croise dans les mêmes ports. Nous avons aujourd'hui peut-être une vision des choses qui à la fois mélange la nation et la religion dans des proportions qui n'existaient pas à l'époque. On trouve effectivement des témoignages, c'est vrai, où on s'affrontait sur mer, et puis très souvent quand même, en particulier pour la France, qui avait toujours des relations plutôt bonnes du reste sur trois siècles avec la régence d'Alger, je me trouvais l'exemple d'un navire français qui conduit les pèlerins algériens à la Mecque. Et on est à la fin du XVIIe siècle. En fait,
on voyait alterner les razzias et les accords commerciaux. Ça posait pas tellement de problèmes.
Ça posait alors ça. attention à la géographie, ça pose moins de problèmes pour les Français, par exemple, qui ont souvent eu de... C'est beaucoup plus douloureux, par exemple, sur les côtes italiennes.
Ah oui, vous avez plus proche. Hein.
C'est plus proche, et vous avez en Sicile, par exemple, encore des expressions d'aujourd'hui qui... par exemple, une expression, je la donne en français, être pris par les Turcs, c'est être pris par... être désarçonné par quelque chose qui vous arrive. Donc c'est une expression qu'on retrouve. Du reste, là, on va passer dans une littérature d'aujourd'hui, dans les romans policiers de Camilleri, l'inspecteur Montalbano, ou l'un des protagonistes du commissariat, utilise souvent cette expression quand il est surpris, être pris par les Turcs. Donc tout ça veut dire que sur la très longue durée, ce souvenir-là est resté.
Alors c'est vrai qu'on a un petit peu oublié en France la régence d'Alger, mais enfin quand même quand on s'y intéresse en tant qu'historien, évidemment vous ressuscitez tout ça. Le français qui a lu Molière sait que dans les fourberies de Scapin, mais que diable allait-il faire dans cette guerre? C'est évidemment une allusion directe à la régence d'Alger, donc à ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, où il y a beaucoup de captifs et beaucoup de problèmes. Voilà, donc c'est vrai que dans la France du 17e, bon, effectivement, la régence d'Alger, c'est un vrai souci. Hein. On s'en inquiète.
Oui, il y a un moment où on s'en inquiète. Faut non plus exagérer la puissance militaire des navires d'Alger. Je mets un moment la comparaison entre ce que pouvait donner la République corsaire d'Alger en termes de navires sur l'eau et la puissance navale, ne serait-ce que de Louis XIV ou a fortiori celle montante de l'Angleterre. Il y a quand même une vraie différence. Mais c'est agaçant. Alors, j'irai pas jusqu'à l'expression qu'avait Fernand Braudel de parler de piqûres de moustiques ou d'insectes. C'est plus grave que ça, parfois. Ça provoque quand même des vraies situations d'insécurité. Et Louis XIV va tenter, par deux bombardements d'Alger, de mettre fin à cet agacement, je dirais. Déjà, en son temps, Charles Quint avait essayé. Et puis, finalement, on va choisir la voie de la négociation.
Les accommodements, d'ailleurs... D'ailleurs, on peut dire que la France avait, depuis assez longtemps, dès François Ier, donc passé des accords avec le sultan. Donc évidemment, c'est une histoire évidemment complexe. Et alors, pour en revenir à l'Algérie, la régence est quand même une colonie ottomane, même si elle a son espace de liberté. Comment est-ce que la régence aujourd'hui, parle dans l'Algérie contemporaine, est vue ? Est-ce que c'est vu comme une période où l'Algérie existait déjà de façon assez indépendante, qu'elle a résisté, elle est finalement tombée sous le coup des colonisateurs français, donc évidemment ça doit la rehausser aux yeux des Algériens, parce qu'ils doivent se dire, bah, quand même, nos prédécesseurs ont résisté à la colonisation française, mais en même temps c'était une colonie, c'était une colonie d'une autre puissance qui s'appelait l'Empire ottoman. C'est un peu compliqué, hein, sur le plan historique, positionner peut-être.
C'est quand même une république, si on peut dire, enfin on va pas rentrer dans les détails qui sont assez complexes, c'est un gouvernement, disons, à Alger, relativement autonome pendant toute une partie de ces trois siècles par rapport à Istanbul. Par exemple, lorsque j'ai trouvé des textes là, du 18e siècle, lorsque le sultan à Istanbul demande à Alger d'arrêter un certain nombre d'actes du piratage qu'il poursuivent, à Alger, on n'en tient pas compte. Mais par contre, quand... et cela jusqu'à, par exemple, la bataille navale de Navarin et la guerre contre la Grèce, là on est déjà au 19e siècle, quand la Sublime Porte fait appel à des marins d'Alger, la flotte d'Alger vient. Il y a quand même un lien religieux qui demeure, mais une vraie solidarité islamique. On le voit à Les Pentes, on le verra plus tard à Navarin. Et par contre, l'État existe quand même, donc il y a une autonomie, même s'il y a des janissaires qui sont venus à un moment de Turquie pour contribuer à l'ordre et puis surtout à récolter l'impôt quand il est nécessaire, mais avec toute une partie de l'Algérie qui n'a jamais été soumise par l'autorité des Turcs. Mais quand la menace est là, y compris par exemple en 1830, lorsque le débarquement français à Sidi Frech a lieu, des tribus avaient combattu, par exemple, des groupes des guerriers de Kabylie qui avaient tout le temps lutté contre les Ottomans, là, lutte contre l'envahisseur chrétien. Donc, vous avez raison, il y a une forme de solidarité religieuse qui va être présente. Et alors, aujourd'hui, ce passé est repris par l'Algérie d'aujourd'hui en valorisant par exemple Barberousse et enfin les frères, puisqu'ils étaient plusieurs frères Barberousse, et avec aussi cet élément de valorisation de la période ottomane qui s'appuie aussi en géostratégie, en géopolitique, sur l'attitude actuelle d'Erdogan. Aujourd'hui, les sociétés turques, par exemple, dans le domaine économique, sont très, très présentes en Algérie. La sidérurgie algérienne, aujourd'hui, ce sont des sociétés turques. Les grands feuilletons viennent de...
On a vu d'ailleurs la puissance, la nouvelle puissance turque s'intéresser de plus en plus à cette Méditerranée
anciennement ottomane.
Anciennement ottomane. Alors on sait pour la Libye, mais les prétentions vont jusqu'à Alger. Donc donc en se souvenant de la régence d'Alger, on comprend évidemment la puissance de ce lien historique. Alors évidemment, il faut quand même qu'on dise un mot de la colonisation française, puisque bon, 1830, donc Charles X à la suite. Charles X n'est pas très sûr de lui, il n'est pas très sûr de vouloir y aller, et puis finalement il est quand même poussé. C'est une conquête un peu particulière. Hein. On veut mettre un frein en finir avec cette régence, mais enfin, elle n'est pas la combattre et l'annihiler n'est pas une urgence absolument vitale. C'est plutôt une façon de se réhabiliter après les défaites de l'Empire et montrer qu'on reste une grande puissance militaire, et donc avec une conquête qui évidemment s'offre à vous, même si elle ne s'impose pas tout à fait.
Oui, on retient tout le temps la date de 1830, mais le fameux coup d'éventail contre notre consul à Alger, il est de 1827, 3 ans auparavant.
Oui.
Donc il y a ce moment de crispation entre les deux pays. Et un blocus qui va durer presque 3 ans, et la décision d'intervenir militairement, qui après d'autres hypothèses qui avaient été évoquées, et la décision de 1830 qui doit être en... Alors là, le piraterie barbaresque n'existe quasiment plus. On a une économie...
Vous dites qu'il y a presque vraiment le nombre de bateaux, de la région,
est devenu totalement dérisoire. Donc là, ça joue peu. On a des relations économiques, je dirais, à peu près normales, qui existaient déjà à la fin du 18e, puisque l'histoire du coup d'éventail vient de paiements, de livraisons importantes, à l'origine, à la convention, de blé algérien. Passons. Mais en 1830, donc la décision est prise, mais dans une réflexion globale. C'est aussi la crainte de voir la Grande-Bretagne, l'Angleterre, mettre la main sur l'ensemble de la Méditerranée que Charles X redoute. Et puis, il s'agit, comme vous dites, de redonner un peu de lustre au drapeau après les grandes aventures dont on a encore le souvenir à l'époque de Napoléon. Mais c'est de la géostratégie par rapport à l'Angleterre. Et on y va doucement, craignant la réaction de l'Angleterre.
Alors d'ailleurs, donc vous racontez très bien, donc entre 1830 et 1870, la colonisation de l'Algérie se fait. Alors il y a le fameux Bugeaud, il y a ce grand personnage d'Abdelkader qui va résister à la présence, enfin à la conquête française. Mais je dirais que en 1870, l'Algérie colonisée est encore une petite partie de l'Algérie d'aujourd'hui. C'est quand même
on a quand même toute la Kabylie à peu près. On arrive aux oasis du sud en 1870.
Mais ça a été long. Et alors le malheur de Charles X, c'est qu'il est déposé très peu de temps après la conquête. Et lorsqu'il veut se faire féliciter par les Français pour cette belle conquête d'Alger, il s'aperçoit que les Français s'en fichent.
Oui, c'est ce qu'on voit dans les textes de l'époque. Quand il y a un grand tédéum à Notre-Dame pour fêter la prise d'Alger, on s'aperçoit que la foule parisienne n'est pas très...
Il pensait vraiment faire une opération de formidable sur le plan de la communication, or pas trop. Hein.
Oui, non, le résultat était plutôt déplorable.
Et alors, la monarchie de Juillet se retrouve avec ce bébé sur les bras, et là, on se demande ce qu'on va faire. Quoi.
Alors, il y a un temps d'incertitude, et puis après, Louis-Philippe, qui là récupère mieux, en quelque sorte, l'idée de la Révolution et de l'Empire, d'une conquête militaire. Et c'est assez frappant de voir comment tous les fils, duc d'Aumale, duc de Nemours, etc., de Louis-Philippe...
Vont aller guerroyer en Algérie.
Et c'est encore aujourd'hui au château de...
On voit le fameux tableau de la prise de la Smala d'Abdelkader.
De Razermeg.
Et là, c'est le duc...
C'est le duc d'Aumale.
C'est le duc d'Aumale.
Mais le duc de Nemours est présent pour la prise de Constantine, etc. Et puis aujourd'hui, c'est encore au château de Chantilly qu'on a un certain nombre de vestiges de la prise de la Smala d'Abdelkader, ne serait-ce que la grande tente d'Abdelkader, qui est, je crois, dans les réserves du musée. Donc c'est vraiment la famille d'Orléans. Opposé quand même à Charles X.
Orléansville, d'ailleurs, il y a une ville.
Bah,
Orléansville qui est.
Philippeville.
Philippeville et Orléansville.
Etc. Non, non, Nemours. Enfin, vous avez. Et puis après, la Seconde République qui arrive 1848, qui va créer les départements français d'Algérie. Et puis l'idée du royaume arabe de Napoléon III qui va aussi étendre l'influence française, et bien sûr la Troisième République qui va tenter de célébrer le premier centenaire, comme vous le disiez,
en 1930. Hein.
Mais la conquête de l'Algérie au sens général, tel qu'on peut l'entendre, si on inclut le Sahara, ne s'arrête que, disons, en 1904-1905. 70 ans d'avancée continuelle.
Il faut dire que le territoire est immense. Hein.
Bah, bien sûr. Mais quand même, immense, mais il a fallu mettre des moyens assez considérables. Et ce qui m'a frappé en retrouvant aussi un texte, c'est que là, je crois qu'on est dans les années 1850, où un général français écrit, en gros, on s'en sortira jamais, il faudrait laisser en permanence à peu près 500 000 hommes pour tenir le pays. Et 500 000 hommes, ça va être la présence militaire pendant la guerre d'Algérie.
Voilà, c'est à peu près la dimension du contingent pendant la guerre de 1954 à 1962. Alors, on n'a pas le temps. Je pense que c'était intéressant de parler de toute cette Algérie d'avant la conquête.
Sinon, on comprend pas.
Et pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que ce pays lorsque les Français s'y implantent, et ensuite comment il va évoluer jusqu'au déclenchement de la Toussaint Rouge en 1954 et donc le début de la guerre d'indépendance. Et puis ensuite, évidemment, vous revenez d'ailleurs dans le livre, vous revenez largement sur les 60 années qui se sont écoulées depuis l'indépendance. Mais alors, ce qui est peut-être intéressant, c'est de voir que de toutes ces générations de l'Algérie indépendante ont en tête quand même les grands personnages de leur histoire. On a parlé de Jugurtha, on a parlé de Barberousse, on a parlé d'Abdelkader. Les Algériens d'aujourd'hui donc ont bien conscience qu'ils viennent de loin, quoi, et qu'au fond, là, même si la colonisation française a profondément formé le pays, pour le meilleur et pour le pire, sans doute, enfin, en tout cas, formé le pays, que, évidemment, l'Algérie, même si elle n'a pas les frontières qu'elle a gagnées en juillet 1962, a une forte existence historique autonome. C'est un sujet de fierté, ça.
Je crois quand même que c'est essentiellement, malgré tout, alors si je prends l'enseignement de base à l'école, etc., c'est quand même la lutte de libération, enfin, ce qui est dite lutte de libération nationale, qui est le plus valorisé. Avec l'idée aussi que le peuple algérien, que ce soit à l'époque romaine ou que ce soit bien sûr après 1830, a été uni et héroïque contre les envahisseurs en général et contre la France en particulier. Ça, par exemple, toutes les nuances, dire que Abdelkader, prenons l'exemple d'Abdelkader, n'a absolument pas suscité l'enthousiasme des Kabyles ou des tribus de l'Est algérien qui ont refusé d'œuvrer avec lui contre la présence française, ça, c'est pas possible. Il faut un discours unanimiste de résistance de tout le monde. Raconter ou dire que, je reviens à 1830, quand la conquête française commence à s'installer dans le pays, elle reçoit le soutien de dizaines et de dizaines de tribus locales qui, finalement, s'inscrivent dans l'axe du pouvoir précédent. On le voit par exemple dans l'Oranais, que des tribus vont se mettre au service de la France comme elles étaient au service de l'Empire ottoman. Donc tout le côté guerre civile interne, ce qui a été aussi la guerre de libération, ça est quand même plus ou moins occulté. Il faut voir que les Français, quand ils arrivent, ils découvrent aussi une situation qu'ils ne connaissaient pas. Ils sont en présence, et ils en font très rapidement la cartographie, de 1200, plus de 1000 tribus différentes. Avec
la possibilité de jouer les uns contre les autres.
Exactement. On trouve sous cette expression un certain nombre de généraux français qui vont utiliser la division, l'agressivité des uns, les bornages de territoire.
C'est un phénomène classique de la colonisation.
Tout à fait.
On le retrouve en Afrique, on le retrouve en Asie, on le retrouve partout.
Hein. Mais là, comme vous avez 1200 tribus, plus des ensembles, comme le pays Chaoui, comme la Kabylie, comme les tribus de l'Oranie...
Ça offre des possibilités de combinaisons innombrables.
Innombrables.
Alors, Michel-Pierre, j'ai mentionné au début que vous êtes historien, pour faire cette histoire de l'Algérie vraiment très, très complète. On sait à quel point l'histoire est un enjeu, hein, et en particulier entre la France et l'Algérie. Récemment, donc, Benjamin Stora avait été chargé par le président de la République de faire un rapport sur les relations franco-algériennes, et donc il a notamment suggéré vraiment qu'une commission d'historiens des deux côtés de la Méditerranée se penche sur le rapprochement des mémoires. Alors, est-ce que votre livre peut contribuer à un rapprochement des mémoires? Vous citez des historiens, notamment algériens. Où en est un petit peu le dialogue historique entre la France et l'Algérie? Et est-ce que vous pensez qu'il est possible d'avancer vers ce rapprochement des mémoires, ce qui serait un outil pour finalement pacifier des relations qui restent quand même très, très, on va dire, très compliquées?
C'est compliqué. Effectivement. Pacification des mémoires. On revient un peu sur ce qu'on disait précédemment. On n'est pas dans un dialogue d'égalité, en quelque sorte. Ça a été, par exemple, le traité d'amitié franco-allemand a pu être se constituer relativement facilement parce que nous sommes toujours en présence de deux vieilles civilisations, deux vieilles nations qui se sont affrontées pendant des siècles, la France et l'Allemagne, et qui ont, par cet équilibre même, ont pu dialoguer. Cet équilibre, il n'existe pas entre la France et l'Algérie. D'une part, vous avez quand même une ancienne colonie qui est restée pendant 132 ans. Et puis, vous avez une guerre de libération qui a fait, je dirais, 30 000 victimes d'un côté français, et sans doute 400 000 ou plus de 400 000 côté algérien. Donc vous avez, avec un territoire qui n'a pas été dévasté comme l'a été l'Allemagne, par exemple, ou d'autres pays par des bombardements, etc. Les infrastructures, les villes algériennes...
Vous dites que les villes étaient intactes.
Elles sont intactes. Par contre, ce qui n'est pas intact, ce sont les centaines de milliers d'Algériens qui ont dû fuir, soit en Tunisie, soit au Maroc.
L'intensité des déplacements de population est énorme.
L'intensité des déplacements, les camps de regroupement, etc. Donc, les infrastructures sont intactes, mais c'est comme il est dit, l'Algérie est en 1962 un pays fourmilière, quoi. Donc chacun revient chez soi pour retrouver souvent des villages détruits par le napalm, etc. Donc on a un pays qui est quand même dévasté, même si les villes, les infrastructures sont intactes. Une population qui va peu à peu aussi s'approprier ce qu'on peut dire un butin qui est laissé par la présence française. Et les deux pays, on parle de dialogue, mais pour parler vraiment d'apaisement, de mémoire partagée, il faut une forme d'équilibre. Et en même temps, vous avez un discours officiel, mais une population algérienne qui, par exemple, puisque j'ai eu à m'en occuper aussi quand j'étais à Alger, le tourisme pied noir qui s'est développé, les pieds noirs qui reviennent sont magnifiquement accueillis. Donc, toute une partie du discours officiel sur les abominations de la France touche peu une grande partie des Algériens, sauf peut-être, mais c'est juste une interrogation, les plus jeunes qui, à force de recevoir un enseignement qui fait de la France la responsable de tous les malheurs du pays, finit par un petit peu exister. Mais chez les plus jeunes, chez les plus anciens. Et puis, il faut voir l'intensité aussi des relations entre les deux pays. Aujourd'hui, vous avez en France à peu près 6 millions de Français d'origine algérienne. selon les chiffres officiels algériens, enfin de la diaspora, mais ça doit être à peu près ça. Vous avez aussi, alors, qui va obliger, par la force des choses, va encore augmenter. Vous rajoutez à ces 6 millions les descendants ou les parents du 1 200 000 Français qui sont partis sous l'uniforme. Vous rajoutez le 1 000 000 de pieds noirs. Vous avez, c'est un calcul que j'avais fait en son temps, vous avez à peu près 12 millions de Français qui ont un rapport,
qui ont rapport charnel, à l'Algérie charnel, quoi.
Ce que vous n'avez pas par rapport à l'Allemagne.
Oui, bien sûr.
Donc, ne serait-ce que ça, la violence d'une histoire partagée, mais en même temps, toutes les nuances de cette relation entre les deux pays fait que on peut pas discuter si simplement que ça. Et le gouvernement algérien a quand même besoin de son ennemi intime, en quelque sorte, et tout à fait logiquement, je dirais en termes politiques, alors que la France est peut-être à moins de au niveau gouvernemental n'est pas dans le même rapport historique. Donc c'est pas les mémoires apaisées qui comptent, ça va être la banalisation des relations. Mais comme elle est ancrée dans ces 12 millions de Français dont je parlais, comme elle est ancrée charnellement, l'apaisement...
Ça rend les choses bien plus difficiles.
Ça rend les choses sur le
Michel très Pierre, long. Est-ce que votre histoire de l'Algérie est déjà disponible dans les librairies d'Alger, d'Oran, de Constantine?
Ah, ça, je n'en sais rien. Bon.
En tout cas, est-ce que vous avez des remontées de la part d'un public algérien qui aurait déjà eu accès à votre livre?
Bah, j'ai des retours d'amis ou de connaissances algériennes qui sont plutôt positives. De là à ce que le livre soit... À partir du moment où je raconte un certain nombre de
vérités... c'est un livre factuel, hein, c'est un livre... Voilà, vous n'êtes...
Oui, ah non, moi j'ai pas. Alors comme je n'ai pas
abordé le problème en historien, donc c'est relativement c'est un livre objectif, hein, même si vous ne vous privez pas évidemment de souligner évidemment les difficultés, notamment côté algérien, les difficultés.
Bah, d'assumer
cette histoire.
J'ai vraiment
essayé de la raconter correctement.
Oui. J'ai essayé de faire vraiment un livre honnête. D'une part, je n'ai pas moi personnellement de lien charnel en quelque sorte, puisque nous l'évoquions. J'ai un lien d'abord de sympathie quand même avec le pays. J'ai par exemple voulu rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas, au peuple algérien qui a lui-même résisté à l'effroyable décennie noire qui s'est passée dans le pays, en mentionnant que l'école a continué à fonctionner, le courrier a continué à fonctionner, les policiers ont continué de faire la circulation.
Là on parle de 1991-2001.
C'est ça, de la décennie noire. Donc le peuple algérien, là, mérite quand même effectivement d'être un peu remarqué pour son
courage, sa résilience, pendant cette période.
Ce qui n'empêche que je traite aussi de la période contemporaine, qui est sous une espèce de chape de plomb, un peu de ce que j'appelle de la bigoterie islamiste, qui finit par évacuer toute la spiritualité de l'islam au profit de simples règles et de rituels qui imprègnent profondément la société d'aujourd'hui, mais peut-être en contre-coup de ce qui s'est passé précédemment. Donc c'est toute cette complexité-là que j'ai tenté de voir. En historien honnête, heureusement que nous ne sommes pas complètement objectifs comme historiens, ce serait abominable. Mais j'ai vraiment voulu, par exemple, quand je décris un certain nombre de choses relatives à la colonisation, par exemple, je cite des officiers ou des généraux français. Parce que si vous citez uniquement l'adversaire, c'est une chose. Mais par exemple, quand je cite tel officier français déplorant toutes les destructions faites entre 1830 et 1835, ça a quand même plus de force. Et quand je cite un auteur algérien pour parler des massacres du FLN ou de la guerre civile à l'intérieur du camp nationaliste pendant la guerre de libération, ça a plus de force.
Ça a plus de force que si ça vient de l'adversaire, bien sûr. Et voilà. Et donc effectivement, c'est ce qui ressort du livre, c'est la richesse des témoignages, des sources historiques. C'est un travail considérable. Vraiment, je pense que vous avez dû vraiment suer sang et eau pour nous l'offrir. Mais en tout cas, on vous en remercie beaucoup. Donc, Michel Pierre, Histoire de l'Algérie des origines à nos jours, aux éditions Talendier. Voilà. Donc, c'est sorti au mois de mai 2023. Voilà. Est disponible pour la modique somme de 27,50 €, ce qui est vraiment un excellent investissement pour connaître voilà, l'histoire de l'Algérie. Merci beaucoup,
plus,
Michel.
Plus une dizaine de cartes.
Plus une dizaine de cartes, pardon.
Ah, merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup.
Merci.